Le journal est présenté par Claudia Calmet.
Bonjour. La Tunisie, à l'heure du choix, plus de 5 millions de personnes appelées aux urnes pour la présidentielle. Scrutin dans un contexte tendu, un homme qui tentait d'attaquer un lieu de stockage de matériel électoral a été abattu par l'armée hier soir. Des victimes civiles toujours plus nombreuses en Afghanistan, près de 10 000 morts ou blessés depuis le début de l'année selon l'ONU, un record depuis le début de l'intervention internationale contre les talibans en 2001. Un danger de moins sur le site de la centrale de Fukushima. Le combustible nucléaire de la piscine du réacteur numéro 4 a été totalement retiré. Une opération longue et fastidieuse, c'est ce que nous dira notre correspondant au Japon, Frédéric Charles. Et puis en France, une grève des salariés des boutiques de souvenirs de la Tour Eiffel qui s'estime sous-payée au vu des bénéfices engrangés par le monument. Les bureaux ont ouvert à 8 heures ce matin. Les Tunisiens votent aujourd'hui pour se choisir un président. Deux bulletins, deux noms sont à disposition. D'abord, Moncef Marzouki, actuel président par intérim. Et puis, Béji Caïd Essebsi, le favori des sondages. Une présidentielle pour l'histoire, la première élection libre en Tunisie. Mais les forces de sécurité sont sur les dents. Plus de 30 000 agents sont mobilisés pour assurer le bon déroulement du scrutin. Hier, un homme a été tué par l'armée. Il tentait en fait d'attaquer un local de stockage de matériel électorale. Les électeurs ont donc reçu l'ordre de ne pas trop traîner après avoir voté, Thibaut Cavaillès.
Le devoir accompli, les électeurs ne s'éternisent pas autour des bureaux de vote pour discuter, comme on avait pu le constater pour les législatives d'octobre. Des consignes ont été données, vite libérer les lieux, après les menaces d'une vidéo de l'État islamique cette semaine et la fusillade hier soir près de Kairouan d'un bureau de vote surveillé par des militaires. Une attaque qui a vu la mort d'un des assaillants. À 63 ans, Sabiha est fière de voter librement pour un président qu'elle ne souhaite pas nommer.
Et c'est lui qui va sauver la Tunisie.
Elle est en danger, la Tunisie ?
En ce moment, oui. Il y a la moitié de la population qui n'est pas consciente du danger que nous traversons.
Le danger terroriste, précise Sabiha, qui ne cache pas finalement son vote pour Béji Caïd Essebsi, 88 ans, favori dans les sondages et dans cette banlieue chic de Tunis. Naoufel Karossier est sûr que l'ancien ministre de Bourguiba va l'emporter face au président actuel, Moncef Marzouki.
On va être débarrassé d'un dictateur, un vrai dictateur, Moncef Marzouki. Il est complètement fou.
Et pourtant, votre candidat, Béji Caïd Essebsi, lui a travaillé avec des dictateurs.
Ça ne veut rien dire. Il a beaucoup d'expérience. Il connaît bien le pays, il connaît bien la population qui va nous mettre sur la bonne route.
Rouébah, lui, a voté Marzouki par conviction. C'est un homme juste pour les droits de l'homme, nous explique-t-il. Un candidat qui veut le bien du pays. Béji Caïd Essebsi, lui, c'est un pharaon. Ramsès, rigole un autre électeur, moquant le grand âge de celui qui devrait l'emporter.
Un reportage à Tunis de Thibaut Cavaillès. 7 000 morts et 19 000 personnes contaminées. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dressé un bilan hier de l'épidémie d'Ebola à l'issue de sa tournée en Afrique de l'Ouest. Ban Ki-moon qui a insisté sur l'importance d'une vigilance accrue au moment où l'épidémie faiblit. 7 personnes tuées hier encore dans l'explosion d'une bombe artisanale en Afghanistan. 2 hommes, 3 femmes et 2 fillettes soufflées dans une camionnette. Ça s'est passé dans la province de Kunar, près de la frontière avec le Pakistan. Des victimes qui viennent s'ajouter au décompte, triste décompte tenu par la mission de l'ONU en Afghanistan. Cette année, le nombre de victimes civiles en marge du conflit qui oppose les forces afghanes et leurs alliés de l'OTAN aux talibans est sur le point de passer la barre des 10 000. La pire année depuis la tenue d'un registre officiel, plus de 3 000 personnes ont été tuées et 6 400 autres blessées, Véronique Pellerin.
Oui, insistons bien sur ce fait, il s'agit de civils. 3/4 des morts et des blessés sont des civils, donc pas des soldats ni des policiers. C'est évidemment un triste record qui n'augure rien de bon alors que les forces occidentales se préparent à partir d'Afghanistan. Les Afghans seront en effet quasi laissés à eux-mêmes à partir de janvier prochain. Ne resteront que quelques milliers de soldats américains chargés d'encadrer et de former les forces de sécurité afghanes. Autre signe tout aussi négatif, pour la première fois cette année, les morts et les blessés ont été le fait des combats terrestres entre talibans et forces afghanes. Dans le passé, c'était plutôt les attentats à la bombe qui tuaient. La perspective du départ des forces occidentales enhardit visiblement les talibans qui accentuent leur pression depuis plusieurs mois sur les forces de sécurité afghanes, ce qui explique un autre record, les 4 600 soldats et policiers afghans tués cette année. À noter que ce matin, les talibans ont contesté ce décompte. Ils minimisent le nombre des civils tués car pour eux, les fonctionnaires de l'État afghan sont des cibles légitimes, disent-ils, au même titre que les soldats et les policiers.
Merci pour ces précisions, Véronique Pellerin. Il se déploie progressivement sur le flanc nord du mont Sinjar. En Irak, les Peshmerga, les combattants kurdes, ont réussi à chasser les djihadistes de l'État islamique du site avec l'appui des raids internationaux. Ce refuge de la minorité yazidi était assiégé depuis des mois. Mais au-delà des Peshmerga, les djihadistes sont aussi confrontés à des tribus irakiennes ralliées au gouvernement. Écoutez Myriam Benraad, elle est chercheure au Centre d'études et de recherche internationales de Sciences Po et spécialiste de l'Irak.
On est aujourd'hui dans une forme d'oscillation qui n'a pas finalement changé, même si un certain nombre de tribus ont effectivement, après avoir accueilli les djihadistes, fait les frais de cette offensive de l'État islamique et ont retourné leurs armes contre ces combattants en essayant d'entamer un dialogue avec le gouvernement irakien qui est beaucoup plus facile aujourd'hui, maintenant que l'ancien Premier ministre Maliki a été remplacé et qu'Haïdar al-Abadi, qui est beaucoup plus consensuel, a engagé un certain nombre de réformes, dont d'ailleurs une qui est très importante, qui est la réforme de l'armée, qui avait déserté en juin dans les djihadistes. Donc les tribus essaient de se positionner à ce niveau et puis coopèrent avec l'armée irakienne contre les djihadistes. Elles ont d'ailleurs permis la reprise d'un certain nombre de territoires. Le problème, c'est que l'État islamique, qui a compris que le gouvernement irakien et les Américains misaient sur cette carte tribale, l'État islamique s'est depuis lancé dans une campagne d'assassinat. On a un certain nombre de massacres qui se sont déroulés dans les dernières semaines pour éviter qu'une opposition réapparaisse de nouveau et mette le projet de califat en échec.
Myriam Benraad du série Sciences Po avec Lucas Valdener. C'était l'un des plus grands dangers encore présents sur le site de la centrale de Fukushima. Eh bien, ça y est, c'est fait. Le combustible nucléaire de la piscine du réacteur numéro 4 a été totalement retiré. En cas de nouveau séisme ou de nouveau tsunami, la piscine aurait laissé échapper des dégagements massifs de substances radioactives. Les travaux délicats auront duré un peu plus d'un an. À Tokyo, les précisions de Frédéric Charles.
Vider la piscine du réacteur numéro 4 à la centrale de Fukushima de ses 1500 barres de combustible est apparu dès le début de l'accident comme une priorité majeure. La piscine est perchée à 18 mètres de hauteur sur une structure fragilisée par une explosion d'hydrogène. TEPCO redoutait qu'un nouveau séisme n'expose les barres de combustible à l'air libre avec des conséquences désastreuses. Selon le professeur Hiroaki Koide de l'Université de Kyoto, la quantité de césium-137 présente dans la piscine était équivalente à au moins 5000 fois celle dégagée par la bombe atomique d'Hiroshima. Pendant un an, des équipes de techniciens se sont relayées toutes les deux heures aux commandes de deux grues installées au-dessus de la piscine pour retirer les barres de combustible, les placer dans un conteneur, les transférer vers une autre piscine au niveau du sol à une centaine de mètres du réacteur numéro 4. L'opération est réussie. Avant de réactiver ces réacteurs jugés sûrs, le gouvernement japonais cherche à rassurer les Japonais et le monde extérieur sur la situation à Fukushima. Oui, des progrès sont réalisés. Mais l'opération du réacteur numéro 4 n'est qu'un début. 11 000 autres barres de combustible sont stockées dans d'autres piscines. Et l'extraction du combustible fondu dans les réacteurs 1 à 3 doit encore commencer.
En France, ils veulent plus de 300 euros de plus sur leur fiche de paie. Troisième jour de grève aujourd'hui pour les salariés des boutiques de souvenirs de la Tour Eiffel. Des employés qui touchent à peine plus que le SMIC, sans compensation ni majoration quand ils travaillent le dimanche, selon les syndicats, Héloïse de Neuville.
Oui, des stores fermés, un drapeau CGT qui flotte et des touristes intrigués. 40 employés de la Tour Eiffel font de la résistance. Des horaires difficiles, des jours fériés et des dimanches, comme vous l'avez dit, souvent travaillés, les salariés se sentent lésés.
On fait la grève depuis vendredi pour revendiquer une augmentation de nos salaires qui sont au plus bas, plus bas que les SMIC, ça ne peut pas exister. Et depuis toujours, on est payé en SMIC. Et il commence à 6h du matin, il y a une partie des personnels qui commencent à 6h du matin. Il y en a qui finissent à 11h30 du soir. Pas un centime de plus si on travaille le dimanche ou en soirée.
La Tour Eiffel est la vitrine de Paris et elle rapporte gros. Mais derrière le business touristique se cache une réalité plus dure. Les salariés sont exposés au vent, au froid. Confinés dans leur boutique, ils dénoncent le décalage entre ces deux réalités.
Donc vous pouvez voir que c'est le local où justement on mange à l'intérieur. On stocke les marchandises. Il y a justement la poubelle et tout. Donc c'est pas normal. C'est un monument historique très connu. Mais sauf que les gens qui travaillent justement à l'intérieur, Ils ont des situations précaires en fait.
La société a d'ores et déjà proposé une augmentation de 100 euros aux salariés, mais c'est 3 fois moins que ce qu'ils espéraient.
Merci Héloïse de Neuville. Et comme chaque dimanche sur France Culture, on s'intéresse à l'actualité internationale, parfois un peu passée inaperçue. C'est l'heure de la face cachée du globe avec Nadine Epstein. Bonjour Nadine.
Bonjour. Bien qu'il y ait eu encore 35 condamnés à mort exécutés aux États-Unis cette année, la peine de mort recule outre-Atlantique et atteint son plus bas niveau depuis 20 ans. Sur les 32 États qui autorisent la peine capitale, seuls 7 l'ont appliquée en 2014, principalement dans 3 États, le Texas, le Missouri et la Floride. Le Mali ne compte plus de cas d'Ebola. La dernière personne infectée par la fièvre hémorragique a été guérie cette semaine. Et si d'ici le 18 janvier, aucun nouveau malade n'est détecté, Bamako sera déclaré exempte du virus. Selon l'OMS, Ebola a fait près de 7000 morts sur 18 603 cas recensés en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, la vie reprend son cours après les manifestations qui ont provoqué la fuite du président Blaise Compaoré. Le commandant de la garde républicaine, qui s'était proclamé chef de l'État, a remis le pouvoir à un gouvernement civil. Les autorités de transition annoncent vouloir rompre avec l'ancien régime. Koto est un artiste qui se tient bien informé sur son pays d'origine.
Après le départ du président, je pense que les gens sont assez zen quand même, qui savent un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les jeunes ne voulaient plus en fait que l'ex-président soit toujours président à vie. Ils avaient envie vraiment d'un changement.
Les manifestations n'ont plus lieu ?
Non, il n'y a vraiment pas de manifestations. Il y a eu des ministres, par exemple, qu'on avait nommés, et les jeunes ne voulaient pas du tout parce qu'ils étaient des gens qui faisaient partie de l'ancien régime. Par exemple, du ministre de la Culture qui a été nommé, les artistes ne voulaient pas du tout de ce monsieur-là. Il a été dans l'affaire de Norbert Zongo. Les gens le soupçonnent d'avoir étouffé le dossier du journaliste qui a été assassiné.
Aujourd'hui, comment vit votre famille dans ce pays qui est extrêmement pauvre au Sahel ?
C'est vrai qu'on n'a pas de ressources comme le pétrole, le diamant. Ma famille va à ses occupations, ils vont au boulot, au champ. Voilà, la vie suit son cours.
Aujourd'hui, le gouvernement civil doit mener le pays à des élections générales l'an prochain ?
Ben, j'espère. C'est pour ce but qu'on les a mis là où ils sont. Parce que je pense que c'est les jeunes qui ont manifesté justement ce désir de changement. Vous savez que le Burkina Faso est à majorité jeune, dans 30 ans. Effectivement, les gens qui étaient proches du président étaient très très riches et on se demandait d'où venait l'argent. Et ces gens arrivaient à un certain moment aussi, ils étaient devenus à la limite autant. Si Blaise il avait vraiment écouté les gens, déjà il y a 2-3 ans de cela, il y avait eu un gros mouvement populaire. S'il avait écouté, je pense qu'il serait parti tôt, quoi. J'y vais chaque année, 1 à 2 fois l'année, tu vois la famille, faire aller au village et écouter les musiques traditionnelles. Dans mon village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, pas de voiture qui passe. Et ça permet aussi d'avoir la tête un peu vide pour créer.
Au Brésil, nouvelle affaire de corruption. Cette fois, ce sont des entreprises étrangères qui sont dans le collimateur. Alstom va devoir payer 700 millions de dollars d'amende pour avoir versé des pots de vin en Asie. La justice fédérale de Sao Paulo a confirmé le blocage de 600 millions de reals, environ 200 millions d'euros, des biens de 6 compagnies. La correspondance d'Anne Vigna.
Alstom est à nouveau en une des journaux brésiliens, mais toujours dans la rubrique judiciaire. Cette fois, l'entreprise d'origine française est formellement accusée d'avoir fraudé les appels d'offres des trains et métros de São Paulo aux côtés de l'espagnole CAF, l'allemande Siemens, la canadienne Bombardier, la japonaise Mitsu et la brésilienne TT Trans, qui sont normalement ses concurrentes. En versant des pots de vin à des fonctionnaires, ces entreprises se sont assurées de remporter à chaque fois les marchés des transports publics de la mégapole brésilienne. Ce système a fonctionné pendant au moins 10 ans, entre 1998 et 2008, quand la justice ouvre une première enquête. Mais c'est seulement en 2013 que le système de pots de vin est mis à jour. La multinationale d'origine allemande Siemens a décidé de collaborer avec les enquêteurs en échange d'une condamnation moins lourde. La justice fédérale vient d'exiger cette semaine une première amende de 200 millions d'euros à ces 5 entreprises. Mais ce n'est sans doute qu'un début. 33 personnes sont également inculpées dans cette affaire. Les fonctionnaires publics en charge des marchés, bien sûr, mais également les anciens directeurs des filiales brésiliennes de ces entreprises. Alstom est également accusé par la justice brésilienne d'avoir versé d'autres pots de vin à des fonctionnaires de São Paulo, mais pour gagner le marché de l'équipement énergétique de la ville.
Et on termine avec le groupe australien AC/DC qui sera au Stade de France le 23 mai. Les 70 000 places ont été vendues en moins d'une heure. Rock and Bust, le dernier album du groupe, paru le 1er décembre, s'est écoulé à près de 100 000 exemplaires lors de sa première semaine de commercialisation en France.
Merci Nadine Epstein. Le temps de ce dimanche, pas franchement rock'n'roll, des nuages au nord et des éclaircies au sud. Côté température cet après-midi, 7 degrés à Limoges, 10 à Paris, 11 à Nantes et 13 à Brest.